Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec dans un instant le journal et juste après on ouvrira ensemble comme tous les soirs le débat du Club des Idées. On vous décrypte le monde qui change. Il y a 25 ans mourait François Mitterrand, le président aux deux septennats. Tellement d'espoir en 1981 lors de son arrivée au pouvoir, tellement de déception quelques années plus tard. Homme de l'union et de la désunion de la gauche, quel héritage qui aujourd'hui peut se revendiquer de François Mitterrand? On en débattra avec nos invités à partir de 19h20, Catherine Ney, Jacques Attali et Jean Garrigue. Juste avant, ce sera la carte blanche du Club des Idées avec ce soir la philosophe Julia de Funès qui tient donc, nous parlera de la galette des rois. Mais d'abord le point sur l'info avec Rémi Bostaron. Merci d'écouter Europe 1, il est 19h.
La réalité de ce dossier, c'est la jeunesse qui ne prend pas totalement conscience, notamment au mois d'avril 2020, des risques qui sont encourus s'il viole les mesures sanitaires.
8 mois de prison ferme requis contre la gérante d'une discothèque de l'Isère et son frère. Ils sont accusés d'avoir organisé plus d'une vingtaine de soirées clandestines en plein confinement.
Ce ne sont plus 300 millions, mais 600 millions de doses de vaccins que l'Europe commande à Pfizer-BioNTech.
Et bientôt, c'est le vaccin d'AstraZeneca qui devrait être autorisé dans l'Union européenne. Tous ces vaccins, toutes ces doses, pour quelle répartition? Nous poserons la question à Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Et puis ces vaccins, il faut aussi les produire. Et on va demander à Emmanuel Duteil comment ça se passera, notamment en France.
Des centaines de milliers de canards déjà abattus, des centaines de milliers d'autres qui vont l'être dans les jours à venir. C'est le très sombre tableau sur le front de la grippe aviaire qui sévit dans le sud-ouest.
Quel avenir pour Donald Trump? Évidemment, il ne sera plus président dans 12 jours, mais ensuite, pourra-t-il avoir des ennuis judiciaires? Nous poserons la question à Didier François.
Et puis un Français vainqueur d'un géant aujourd'hui, c'est du ski évidemment, et l'on parle d'Alexis Peintureau, dont vous entendrez la joie.
Un temps à aller faire du ski justement. Bonsoir Agnès, à de nouveau.
Bonsoir.
Attention, les chaussées peuvent être glissantes. Hein.
Oui, demain matin, avec sur toute la moitié nord, de nombreux brouillards, des nuages bas qui, avec les températures négatives, pourront être givrants. Dans le nord, le temps sera ensoleillé, bien gris dans le sud l'après-midi. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Organiser des soirées quand on dirige une discothèque, c'est normal, mais quand on le fait en plein confinement, eh bien, la justice peut se montrer sévère.
Et ce sont 22 soirées au total qui ont eu lieu entre le mois d'avril et le mois de novembre 2020 au César Palace de Grenay, près de Lyon. Jean-Luc Boujon, la gérante de cet établissement, et son frère étaient aujourd'hui jugés par le tribunal judiciaire de Vienne. Comment se sont-ils défendus ?
Eh bien, là-bas, on a vu deux prévenus qui ont tenté de minimiser les choses. La gérante, d'abord, une jeune femme de 32 ans qui a repris il y a peu les fonctions de son père à la tête de cette boîte de nuit très connue dans la région lyonnaise. D'une voix hésitante, elle n'a cessé de répéter qu'elle n'était au courant de rien, d'aucune de ces 22 soirées organisées, alors pourtant qu'elle affirme qu'en temps normal, elle gérait tout, des stocks aux invités en passant par la comptabilité. Tout le monde de la nuit lyonnaise savait qu'il y avait des soirées clandestines au César Palace. Tout le monde, sauf elle. Difficile à croire, a estimé la procureure. Son petit frère, ensuite, 20 ans tout juste employé de la boîte de nuit, a certes reconnu qu'il était l'organisateur des soirées. Mais selon lui, c'était de simples réunions entre copains pour boire un coup à 10-15 personnes. Il a admis qu'une ou deux fois, l'affluence avait pu monter jusqu'à 70-80 personnes. Mais parce qu'il avait été dépassé par le succès, par le bouche à oreille, qu'il n'avait pas su dire non. Son avocat, maître Maxence Pascal, a plaidé l'inconscience du jeune homme.
C'est un jeune qui n'a pas su refuser que d'autres invités, indirectement invités par les amis des amis des amis, entrent dans l'établissement dans lequel il était. C'est la jeunesse qui ne prend pas totalement conscience, notamment au mois d'avril 2020, des risques qui sont encourus s'il viole les mesures sanitaires qui ont été ordonnées par le gouvernement.
Voilà, une thèse qui n'a pas convaincu la procureure de Vienne qui a réclamé 8 mois de prison ferme contre le jeune homme et 6 mois avec sursis contre sa sœur. Le délibéré sera rendu le 22 janvier prochain.
Merci Jean-Luc Boujon, correspondant à Lyon pour Europe 1.
L'Union européenne double sa commande de vaccins Pfizer-BioNTech. On passe de 300 à 600 millions de doses.
Et au total, l'Europe a déjà sécurisé l'approvisionnement de plus de 2 milliards de doses de vaccins, auprès notamment donc de Pfizer-BioNTech, mais aussi de Moderna, dont le vaccin a été autorisé aujourd'hui officiellement en France.
Et on vous retrouve Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Isabelle, la question qui se pose maintenant, c'est comment répartit-on ces centaines de millions de doses?
Alors, il y a une règle de base, c'est que les 27 pays européens sont logés à la même enseigne, donc il y a une clé de répartition, celle de la population. La France, c'est 15% de la population européenne, donc on a un quota de départ de 15% de chaque contrat. Ça, c'est le principe. l'égalité. Mais ensuite, ça se complique. Il y a 6 vaccins, 6 contrats. Avec toutes les possibilités d'achat offertes par la Commission européenne, la France pourrait en théorie acquérir 345 millions de doses. Évidemment, c'est beaucoup trop. Donc, chaque pays fait des arbitrages, renonce à un quota, acquiert celui dont le voisin ne veut pas, attend avant de commander. Parce que voilà, les vaccins ont des prix, des conditions de conservation et des dates de livraison différentes. Exemple, les vaccins de Pfizer et Moderna qui sont déjà là, ce sont aussi les plus chers, entre 12 et 15 euros. Alors que celui d'AstraZeneca, qui devrait être autorisé à la fin du mois, lui, il coûte moins de 2 euros. Chaque capitale pèse donc avantages et inconvénients. Certains pays, comme la Belgique ou les Pays-Bas, ont rendu public la composition de leur panier de vaccins. En revanche, à ce stade, on ne connaît pas la composition exacte du panier français.
Merci pour ces explications, Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. On sait donc comment vont être répartis les vaccins entre les pays membres de l'Union européenne, mais pour les répartir, il faut déjà les produire. Et une partie de cette production sera faite en France, Emmanuel Dutheil.
Oui, on est tout simplement face à un défi majeur et disons-le, à un défi totalement inédit. Réussir à produire des milliards de doses de vaccins en un temps record. Pour relever ce pari, il faut utiliser un maximum d'usines dans le monde et les usines françaises disponibles vont donc être mises à contribution. L'usine de Recipharm va produire en Indre-et-Loire, dès fin février début mars, le vaccin Moderna. Delpharm va produire celui de BioNTech ou encore Fareva va produire celui de CureVac si ce vaccin obtient une autorisation de mise sur le marché. Et puis, et là, c'est encore plus inédit, Sanofi, dont le vaccin a pris du retard, pourrait mettre à contribution ses lignes de production pour d'autres fournisseurs de vaccins, comme l'a confirmé ce matin sur Europe 1 Agnès Pannier-Runacher, c'est la ministre déléguée à l'industrie en charge du plan vaccin.
Si techniquement c'est possible, et là encore, je redis qu'un transfert technologique pour ouvrir un nouveau site prend du temps et qu'il faut choisir l'efficacité, mais si c'est possible, oui, nous sommes en train d'y travailler dessus.
Si on arrive à résoudre ces problèmes techniques, c'est le vaccin d'AstraZeneca notamment qui pourrait être produit sur les lignes de Sanofi. Quant au vaccin de Sanofi, lui, il est attendu au mieux pour la fin de l'année.
Emmanuel Dutheil, merci, chef du service économie d'Europe 1.
Alors qu'aujourd'hui, au Royaume-Uni, le coronavirus, Rémi, serait hors de contrôle.
Ce sont les mots employés par Sadiq Khan, le maire de Londres. Il a déclaré aujourd'hui un état d'incident majeur dans sa ville, la capitale britannique, où les hôpitaux risquent, selon lui, d'être submergés.
En France, ce sont des centaines de milliers de canards supplémentaires qui vont devoir être abattus pour faire face à la terrible épidémie de grippe aviaire.
Oui, alors que 400 000 canards ont déjà été abattus, rien que dans le département des Landes, cet abattage massif va être propagé sur 5 départements désormais, Benjamin Peter.
Oui, concrètement, le ministre a annoncé que les zones d'abattage préventif autour de chaque foyer identifié allaient passer de 3 km aujourd'hui à 5 km, ça veut dire plus de volailles à abattre. Pour cela, les moyens vont doubler. 2 abattoirs sont déjà réquisitionnés actuellement et Julien de Normandie a annoncé que 2 supplémentaires le seront dès la semaine prochaine.
Nous accélérons, très concrètement, nous allons doubler les capacités d'abattage des volailles. Ce qui veut dire qu'au moment où je vous parle, on a une capacité d'abattage d'environ 80 000 palmipèdes jour. À partir du milieu de la semaine prochaine, on passera à une capacité d'abattage de 160 000 palmipèdes jour.
Alors par ailleurs, des acomptes seront versés très rapidement aux éleveurs à la hauteur de la valeur marchande des bêtes abattues pour permettre une indemnisation rapide. Pour Marie-Pierre Pé, la directrice du CIFOG, qui regroupe une grande partie des producteurs, ces mesures sont à la hauteur de l'enjeu.
La priorité, je le comprends, c'est de très vite dépeupler les foyers et venir au secours des éleveurs qui sont touchés pour que très vite on puisse éviter une propagation sur la zone est du département. J'espère que cela suffira.
Parce que plus à l'est, il y a le département du Gers et la crainte, c'est que dans ce département lui aussi grand producteur de volailles et de foie gras, l'épizootie devienne là aussi incontrôlable.
Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest.
Europe 1, 19h07, c'était aujourd'hui le 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand avec un rassemblement, comme tous les ans, à Jarnac. Hein.
Oui, ce qui n'était pas traditionnel, c'est la présence, cette fois devant le tombeau de François Mitterrand, d'Emmanuel Macron, le président de la République, venu déposer lui aussi une gerbe au milieu des habitués de cette cérémonie, ce qui a fait réagir l'un de ses habitués, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste.
Le président Macron a rendu hommage au général de Gaulle. Il s'est mis dans les pattes du président Pompidou, il a rendu hommage au président Giscard, il fait une politique de Nicolas Sarkozy et maintenant il vient sur la caveau, sur François Mitterrand. Ça prouve qu'il a compris qu'il avait finalement hérité non pas d'un ancien monde, mais d'un monde sur lequel se sont construits les Français. Bon, maintenant, qu'y a-t-il de commun entre François Mitterrand et Emmanuel Macron? Aucun électeur de gauche ne peut croire au clin d'œil. Donc, même le voudrait-il, il ne le pourrait pas. Donc, je crois qu'il a compris ça et que son œil gauche est un peu en panne, donc l'œil droit marche bien.
Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, interrogé à Jarnac par Jean-Rémy Baudeau.
Et on reparlera de François Mitterrand et de son héritage dans un instant avec Jacques Attali, Catherine Ney et Jean Garrigue.
Les démissions se succèdent dans la haute administration américaine et jusqu'à la Maison-Blanche. Donald Trump est de plus en plus isolé et menacé de poursuites judiciaires. Il tente désormais de se dissocier des manifestants qui ont envahi le Capitole.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François, comme tous les soirs dans ce journal. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, Donald Trump a enfin accepté de reconnaître Joe Biden comme le futur président des États-Unis.
Voilà. Dans la vie courante, on appelle ça faire canard. Vous savez, après une grosse bêtise, hein, épaules courbées, regard fuyant, on tente de se faire oublier, comme un gamin pris en faute qui cherche à éviter la punition. Eh bien, c'est exactement ce qu'est en train de faire Donald Trump quand il se déclare maintenant scandalisé par la violence. Mais il a quand même fallu que le vice-président envisage un possible recours à l'article 25 de la Constitution qui le priverait de tous ses pouvoirs pour que Donald Trump revienne, un tant soit peu, à la raison. C'était une menace d'ailleurs qui avait peu de chances d'être effectivement mise en œuvre en raison des délais institutionnels, mais elle a eu un poids politique énorme parce que c'est à ce moment-là que Donald Trump a compris que cette fois il avait été trop loin et qu'il avait été lâché par la vaste majorité des élus républicains. Parce que refuser de reconnaître sa défaite contre l'évidence, hein, malgré les comptages, les recomptages, les recours judiciaires rejetés. Bon, c'est un accro sérieux au pacte démocratique, puisque c'est remettre en cause le fondement même du système parlementaire, qui est normalement d'accepter justement la sanction légale de la majorité, mais ce n'est pas justement illégal. En revanche, appeler ses partisans à marcher sur le Parlement pour tenter d'empêcher l'alternance, c'est légalement un acte de sédition. Donald Trump a bien franchi le Rubicon et il risque gros devant la loi.
Et William Barr, son ancien ministre de la Justice, l'a même accusé d'avoir trahi la fonction présidentielle.
Oui, parce que ce sont des charges graves. Il y a quand même eu un policier, 4 manifestants tués, dont une femme abattue dans l'enceinte du Congrès, hein, imaginez-vous. Donc évidemment, des enquêtes vont être ouvertes. D'autres investigations qui, elles, avaient été bloquées pendant sa présidence pourraient également être relancées. Parce que dans 2 semaines, Donald Trump, il n'aura plus d'immunité présidentielle et surtout, il ne bénéficiera plus d'une majorité parlementaire prête à le couvrir à n'importe quel prix. Bien au contraire, en incitant ses militants à s'attaquer aux élus, il est chez eux, dans leur rang des ennemis terribles, jusque dans son propre camp, et il s'est préparé un ami judiciaire qui s'annonce difficile.
Merci Didier François et Donald Trump qui annonçaient aujourd'hui dans un tweet qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'investiture de son successeur Joe Biden.
C'était le journal de Rémi Bossaron. Merci Rémi, on vous souhaite un bon week-end.
Peut-être un mot de sport simplement pour finir, mais ça m'empêchera
pas de passer
un bon week-end.
C'est ma faute.
Avec la deuxième victoire en ski de la saison pour Alexis Pinturo, le champion de Courchevel s'impose aujourd'hui dans le géant d'Abel de Boden en Suisse. Une victoire qui ravit évidemment le skieur français sur l'un des grands rendez-vous de la saison pour les géantistes.
Adel Boden, c'est la piste mythique du géant. C'est la piste où on a toujours envie de briller, d'être le plus possible au maximum de sa forme. Et puis aujourd'hui, ça a été le cas. Alors c'est sûr que je fais une grosse différence sur la première manche. Et puis après, j'essaye de m'accrocher sur la deuxième. Et puis voilà, ça a donné un beau résultat. Alors on aimerait faire ça devant des spectateurs. Mais cette année, c'est comme ça. Et je pense qu'on peut être déjà très heureux. Et ça reste toujours aussi mythique de venir ici à Adel Boden. Maintenant, c'est sûr qu'il y a encore une troisième course demain en géant. Mais on va déjà essayer de se reposer au maximum. L'enchaînement va être difficile entre les deux géants et puis le slalom de dimanche.
Et c'est une victoire qui permet à Alexis Pinturo de conforter sa place de leader au classement général de la Coupe du Monde. Et demain, il saignera sur le deuxième géant disputé à nouveau à Adel Boden, qu'il prononce très bien lui.
Cette fois, je peux vous souhaiter un bon week-end. Merci Rémi Bossaron.